Vous êtes sur RTL.
Le grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, le professeur Arnaud Fontanet, membre du conseil scientifique, épidémiologiste à l'Institut Pasteur. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour à tous, bienvenue dans le grand studio de RTL et merci pour votre fidélité, elle nous oblige. Bonjour Arnaud Fontanet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui et à mes côtés pour vous interroger, Marion Mourgue du Figaro. Bonjour Marion.
Bonjour.
Et Adrien Gindre de TF1 LCI. Bonjour, bonjour Adrien. Cette émission est donc bien sûr en direct jusqu'à 13h. Vous pouvez nous adresser vos questions sur tous les réseaux sociaux, hashtag le grand jury, et elles seront posées en fin d'émission dans Questions nettes par Marie-Pierre Haddad. Alors, professeur Arnaud Fontanet, votre parcours d'épidémiologiste de renom vous a beaucoup conduit hors de nos frontières pour venir en aide à des populations confrontées à des virus mortels pour combattre Ebola en Afrique notamment. Mais la pandémie de coronavirus vous a ramené ici en France et vous êtes incontestablement devenu l'un des visages de la crise que notre pays traverse depuis maintenant un an. Une année qui ressemble un peu à un jour sans fin. Avec l'apparition de nouveaux variants, nous avons l'impression de revivre tout simplement le même scénario qu'avec l'apparition de la Covid-19 en janvier 2020. Alors bien sûr, nous reviendrons sur tous ces mutants qui inquiète. Mais depuis votre dernière venue au grand jury en octobre, et même vous à l'époque, vous étiez sceptique, il y a bien un vaccin, même des vaccins, des découvertes fulgurantes, une révolution, dit-on, un immense espoir en tout cas, mais au point que l'on s'arrache ses petites fioles et que l'on s'inquiète du risque de pénurie qui affole le monde. Sur la vaccination, justement, la première question de Marion Bourg.
Le laboratoire Pfizer a pris du retard dans l'acheminement des doses de vaccins, de quelques jours visiblement, mais est-ce que vous craignez un impact négatif sur le nombre de gens vaccinés en France, puisqu'on dépend de ce vaccin aujourd'hui ?
Alors c'est effectivement, pour moi, une des principales craintes, c'est pas simplement le laboratoire Pfizer, c'est l'ensemble des laboratoires. Il y a d'une part cette chance incroyable qu'on a de disposer de vaccins encore beaucoup plus efficaces même que ce qu'on espérait. La barre avait été mise à 50% par l'autorité américaine, la FDA. On est à des efficacités de 90%. Du coup, on a d'une part pu avoir les résultats beaucoup plus vite puisque ces vaccins se sont montrés efficaces plus tôt que ce qu'on pensait dans les essais parce qu'ils avaient cette efficacité remarquable. Et maintenant, on est effectivement très dépendant de ces vaccins dans une lutte qui s'est modifiée avec l'arrivée de ces fameux variants dont on parlera certainement pendant cette émission du virus. Et depuis le début, ma crainte, c'est qu'il y ait des grains de sable dans cette logistique de production et distribution des vaccins, parce qu'il y a une demande mondiale tellement forte que forcément, dès que ça coincera quelque part, le retentissement en aval se fera sentir très vite. Et pour nous, il y a des objectifs sur lesquels on reviendra, mais importants de nombre de personnes à protéger, les plus fragiles.
C'était 12 millions. Dans votre rapport, vous dites 12 millions de personnes au printemps. Est-ce que là, vous dites, ça risque d'être moins ? Est-ce que vous revoyez cet objectif ?
Alors, on entend, Pfizer n'a pas dit qu'il ne livrerait pas l'ensemble des doses, mais qu'il y aurait du retard. On a du mal à savoir de combien. Entre-temps, on a appris que Moderna pouvait nous donner des doses, ce qu'on n'attendait pas. Mais à l'inverse, AstraZeneca, son dossier est en cours d'évaluation par l'agence européenne et pourrait prendre plus de temps que prévu. Et puis il y a Johnson & Johnson qui s'est rajouté avec un vaccin intéressant parce qu'il y a une seule dose. Donc c'est très difficile de prédire sur les 3 mois à venir combien de doses vont être disponibles. Une fois de plus, le moins de grains de sable, c'est tout de suite un problème parce que c'est une tension très forte à l'échelle mondiale. Les objectifs, j'ai envie de dire, il y a d'abord les plus de 75 ans et les personnels soignants, ça fait à peu près 8 millions de personnes. Ça, il faudrait pouvoir les vacciner avant mars.
Avant mars.
Et puis après, on rajoute, on descend la barre aux plus de 65 ans et aux personnes qui ont ce qu'on appelle des comorbidités, qui les mettent à risque de formes graves s'ils étaient infectés. Là, ils sont 17 millions et dans notre note du conseil scientifique, on disait qu'il faudrait que 70% soient vaccinés, c'est-à-dire 12 millions, et ça nous amène pour avril. Donc on est, vous voyez, sur des échéances pour protéger avant le moment où la crise que l'on attend du fait de l'arrivée de ces nouveaux variants se fasse sentir, qui sera clairement au moment du printemps.
Une petite précision, Arnaud Fontanès, sur ce que vous appelez les personnes à risque. À partir de demain, le gouvernement a décidé d'élargir un peu la vaccination au-delà des plus de 75 ans, aussi à ceux qui ont le plus fort risque de faire une forme grave, voire de décéder du Covid. En revanche, il n'y a pas dans la liste les personnes diabétiques et obèses. Tous ces derniers mois, on a pourtant dit que c'était des facteurs de risque pour cette maladie du coronavirus. Est-ce que ça veut dire que nos connaissances ont évolué ?
Alors, la Haute Autorité de Santé, Haute Autorité de Santé a fait une première liste qui contient l'ensemble des comorbidités classiques que l'on connaît tous et qui sont associées à un sur-risque de mortalité si les personnes sont infectées. Et là, c'est là qu'on retrouve le surpoids, l'obésité, l'hypertension artérielle. Il y a une liste de personnes qui viennent avec des pathologies qui sont plus rares et qui nécessitent, eux, une vaccination encore plus en urgence, j'ai envie de dire, qui sont par exemple les personnes qui ont des cancers récents en cours de traitement. Il y a des atteintes type insuffisance rénale sévère, etc. Donc c'est des effectifs plus faibles, mais de personnes qui, elles, ont vraiment un sur-risque beaucoup plus élevé. Alors on en a moins parlé parce que ça concerne un moins grand nombre de la population française, mais c'est peut-être cela qui, effectivement, pourrait avoir besoin du vaccin plus vite.
Vous parliez du calendrier presque idéal justement sur la vaccination. Un jeune de 20 ans en bonne santé aujourd'hui, quand est-ce qu'il peut espérer être vacciné ?
Alors tout dépendra de la disponibilité des doses une fois que tous les vaccins disponibles seront devenus accessibles, j'ai envie de dire. Quand je dis disponibles, c'est que je veux dire qui ont été validés, dont on sait qu'ils sont efficaces, dont les chaînes de production vont se lancer. Donc,
c'est-à-dire que c'est à l'échelle de 6 mois où il faut imaginer presque encore une année pour que l'ensemble de la population arrive à être vaccinée.
On a eu tellement de surprises avec justement ces vaccins que je suis de ce point de vue assez optimiste sur une échelle de 6 mois. Parce qu'on voit une fois de plus de nouveaux acteurs qui arrivent et qui ont des vaccins qui semblent extrêmement prometteurs. Il y a aussi un vaccin, Novavax, qui est une petite compagnie américaine qui a quelque chose qui semble intéressant. Donc là-dessus, le paysage peut encore changer. Et une fois de plus, il y aura des vaccins plus faciles à administrer, comme ceux d'AstraZeneca ou de Johnson & Johnson, qui vont changer la donne au moment où ils deviendront accessibles. Et puis, je pense aussi qu'il doit y avoir un effort phénoménal à faire sur les vaccins ARN messagers. On parle de Pfizer, on parle de Moderna. Parce que actuellement, on a des limites de production, mais il faut ouvrir de nouvelles usines. Je veux dire, il faut vraiment là.
Donc il faut demander à Sanofi de mettre à disposition ces usines.
Alors je ne dis pas nécessairement demander à Sanofi de le faire, mais en tout cas de mettre une intelligence collective à l'échelle mondiale et en tout cas européenne pour se dire comment est-ce qu'on peut accélérer la production de ces vaccins. Je pense que.
On ne le fait pas assez aujourd'hui.
Pfizer, c'est en cours de discussion, mais Pfizer a son usine en Belgique, ils veulent ouvrir une usine en Allemagne. Il faut vraiment faciliter aussi ça. Après, l'objectif des plus jeunes.
Alors pardon, justement, sur cette question, professeur Fournier, très très clairement, dites-nous, est-ce que vous pensez qu'il faut dorénavant se mettre en tête de vacciner les plus jeunes et à partir de quel âge ? Voilà, parce qu'Alain Fischer, donc le monsieur vaccin de l'exécutif, dit qu'il faudra peut-être un jour vacciner les enfants. Le faut-il ?
Alors ce sera à une échelle de temps différente. Il le faudra parce qu'il y a deux objectifs. Le premier objectif, c'est protéger les plus fragiles. Ceux qui, s'ils sont infectés, risquent d'aller à l'hôpital, éventuellement de mourir. C'est ce que je vous ai dit. Un premier groupe de 8 millions, si on rajoute les personnels soignants, et puis un deuxième groupe de 17 millions, dont on espère avoir 12 millions de personnes. Et ça, c'est un objectif pour le début du printemps. Le deuxième objectif, c'est d'arrêter la circulation de ce virus. Mmh. Et pour ce deuxième objectif, là, il faudra toucher des populations plus larges, les plus jeunes, quand des vaccins seront disponibles. Ça pourrait arriver à l'été. Et là, oui, maintenant qu'on sait que ces variants sont finalement plus transmissibles que le virus qu'on connaissait, ça veut aussi dire que la couverture vaccinale devrait être plus importante que celle qu'on avait anticipée jusqu'à présent. Rappelez-vous, je vous parlais de 50-67%. Là, on va probablement passer à 70-80%.
Donc avant la prochaine rentrée scolaire, il serait bien que quoi, 50% des jeunes soient vaccinés, par exemple ?
À partir du moment où on aura du recul sur ces vaccins et qu'on confirmera ce qu'on est en train de voir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet indésirable grave en quantité. Oui. Je rappelle que pour Pfizer, on a eu 2 millions de personnes vaccinées aux États-Unis. Il y a eu 22 effets graves qui étaient des chocs anaphylactiques avec 4 hospitalisations. Ça fait 4 hospitalisations pour 2 millions, 1 pour 500 000. Bon, on est quand même sur des effets qu'on appelle rares. À partir du moment où on aura la confirmation que ces vaccins, d'une façon générale, et pas seulement celui de Pfizer, n'ont pas d'effet désirable important.
Mais ça, on le saura quand. En principe, c'est pas au bout de 2 mois.
Dès que ces essais continueront,
on aura des chiffres. On commence à avoir une vision un peu, non pas d'ensemble, mais on a un peu plus de recul déjà sur les premières
vaccinations. On a les chiffres qu'on avait des essais de phase 3 qui comportent 20 000 personnes. C'est déjà pas mal, mais c'est peu par rapport à ce qui se passe quand on déploie le vaccin à l'échelle d'une population. Donc là, vous voyez, avec le vaccin de Pfizer, maintenant, on a des chiffres sur des échelles de 2 millions de personnes. Du coup, l'idée, vraiment, c'est d'arriver à. Une fois qu'on aura des chiffres qui nous permettront de dire que ça va, et on n'a plus aucune raison de se priver. Ce que j'entends, c'est, pour moi, il n'y a plus de raison de dire ça devrait être 70-80%. Pour moi, ça devrait être 100%.
100%.
À partir du moment où c'est que le vaccin marche et que le vaccin n'a pas d'effet indésirable, pourquoi s'en priver ?
À partir de quel âge ?
Eh bien, ça pourrait descendre sur les âges les plus jeunes. Une fois de plus, on
jusqu'à 12 ans, mais voilà.
Les essais, pour l'instant, pour des raisons de priorité. Alors d'abord, on commence souvent les essais chez les adultes. Hein. C'est rare qu'on inclue des enfants dans les essais. Maintenant, on sait que les essais chez les 12-18 ans sont en cours un peu partout pour les compagnies qui les ont développés. Et puis après, pourquoi pas descendre plus bas et vacciner de façon plus générale.
Mais vous dites ça, Arnaud Fontanet, pour que chacun se protège grâce au vaccin ou parce que vous avez la conviction qu'on va pouvoir empêcher la transmission du virus avec la vaccination?
Alors ça, c'est une excellente question que vous posez parce que l'information qu'on n'a pas encore aujourd'hui, c'est si ces vaccins protègent contre la transmission. On sait parce que les essais cliniques étaient construits pour mettre en évidence une protection contre les formes graves. Donc on a cette réponse dès aujourd'hui. On aura bientôt des informations à partir du moment où les vaccins auront été déployés assez largement sur s'ils sont capables de freiner la diffusion du virus. Intuitivement, j'ai envie de dire que ce sera vraisemblablement le cas, mais ce n'est pas encore montré. À partir du moment où on aura des vaccins qui protègent contre les formes graves, mais protègent aussi contre la transmission, la logique d'atteindre une couverture vaccinale très large deviendra prédominante parce que c'est effectivement la seule façon de sortir de cette crise. Et si, par rapport à l'épidémie qui a été la plus grave depuis un siècle, si je mets à part le sida, on ne se donne pas tous les moyens de la stopper, alors qu'on voit sa capacité d'évoluer avec l'arrivée des variants, je trouve que ce serait une opportunité énorme que l'on gâcherait. Donc je ne mettrais pas de limite supérieure.
Parfait. C'est juste une question, parce que vous parliez des effets indésirables, et ceux qui nous écoutent et nous regardent sont préoccupés par cela. On lit ce matin dans Le Parisien que 23 personnes d'un âge très avancé, hein, je dis bien très avancé, sont décédées en Norvège après l'injection. Est-ce que vous pouvez nous dire, professeur, qu'il y a encore des effets indésirables qui vont être connus, qui ne sont pas encore connus et qu'on pourrait découvrir dans les mois à venir?
Alors oui, on peut tout à fait avoir des effets indésirables qui ne sont pas connus, mais ils seront vraisemblablement très rares, puisqu'une fois de plus, on a quand même des données qui ont été bien répertoriées sur le vaccin de Pfizer que je vous citais tout à l'heure. Donc on est sur des échelles de fréquence qui seraient plutôt inférieures à 1 pour 100 000, donc des choses qui sont très rares. Mais il peut tout à fait y en avoir qui surviennent.
Mais la plupart, on les connaît déjà, vous nous diriez?
Alors la plupart, on les connaît déjà parce que, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'expérience des vaccins, on voit des effets indésirables jusqu'à 2 mois après les injections. Ce qui peut arriver immédiatement, alors ce qu'on connaît tous, hein, c'est la petite douleur, un peu de fièvre, etc. Il peut y avoir ces réactions allergiques graves immédiates, hein, les chocs anaphylactiques, ça se survient dans les minutes qui suivent ou dans les heures qui suivent. Et puis après, il y a un deuxième temps.
C'est quand on fait une allergie.
Hein. Alors c'est une allergie très sévère, vous avez une chute de tension artérielle et puis vous perdez connaissance, ça se rattrape avec une injection donc d'épinéphrine. Et c'est des choses qui sont connues. Une fois de plus, il y a eu... sur les 22 chocs qui a eu lieu aux États-Unis, 4 hospitalisations. Donc c'est des choses qui peuvent être graves, mais vous voyez, enfin, qui ne résultent pas toujours dans une hospitalisation. Maintenant, il y a un deuxième temps qui est les 2 mois qui suivent, où là on peut avoir des réactions un peu différentes, ce qu'on appelle des auto-anticorps avec des manifestations neurologiques. Vous avez pu entendre parler des mots de myélite transverse, syndrome de Guillain-Barré, paralysie faciale. C'est le plus souvent réversible. Et pour l'instant, on n'en a pas vu avec le vaccin. On a vu quelques paralysies faciales, mais pas plus fréquentes que dans le groupe placebo, par exemple, pour les vaccins de Pfizer. Et on en a vu un petit peu avec le vaccin d'AstraZeneca. Ça reste, une fois de plus, extrêmement rare. Mais après 2 mois, normalement, il n'y a plus rien. Alors, la surveillance va continuer jusqu'à 2 ans, parce qu'on est avec des vaccins nouveaux, notamment ARN messager. Mais on ne s'attend pas à des effets retardés parce que ça n'est pas décrit pour les autres vaccins.
Pas d'effets retardés, vous êtes plutôt confiant. On en vient, vous en parlez beaucoup, des variants. Et d'ailleurs, votre dernier rapport est intitulé ainsi, entre vaccins et variants, la course contre la montre. C'est le titre du dernier rapport rendu par le conseil scientifique Marion Mourgue.
Est-ce que déjà on sait si le vaccin est efficace contre le variant britannique, sud-africain, japonais? Il y a un certain nombre de variants. Est-ce que d'ores et déjà on sait si, quand on se fait vacciner, ça empêche d'attraper ces nouvelles formes?
Alors, les données qu'on a sont encore très préliminaires. Elles sont rassurantes pour le vaccin de Pfizer contre le variant anglais. Ils ont publié donc, la semaine dernière un papier qui laissait entendre que leur vaccin protège contre le variant anglais. Maintenant, vous l'avez vu, il y a des nouveaux variants qui apparaissent, avec notamment un variant venu d'Afrique du Sud, qu'on retrouve aussi au Brésil, qu'on a retrouvé au Japon, avec une mutation à un endroit différent comparé... Enfin, il y a les mutations du variant anglais, mais il y en a d'autres, et des mutations qui sont susceptibles de changer la conformation de cette protéine de surface, cette fameuse spicule contre laquelle est dirigée notre réponse immunitaire, et qui, du coup, parce qu'il y aurait un changement de cette protéine de surface, peut-être que la réponse immunitaire naturelle acquise contre les virus qui ont circulé jusqu'à présent ou contre laquelle les vaccins, donc la réponse immunitaire qui était suscitée par les vaccins, pourrait ne pas être efficace. Donc là, il va falloir répéter ces analyses. Elles n'ont pas encore été faites et on aura les réponses très rapidement parce que là, il y a une prise de conscience à l'échelle mondiale de ce tout nouvel enjeu que représentent les variants qui sont apparus assez étonnamment tardivement dans l'histoire de cette épidémie. On avait l'habitude de vous dire que ce virus mutait finalement assez peu. Et c'est vrai qu'on voyait 2 mutations par mois, ce qui était pour un virus à ARN relativement peu. Et puis brutalement, on voit apparaître depuis septembre, d'abord en Angleterre, mais maintenant en Afrique du Sud et ailleurs, une nouvelle génération de mutants qui sont très particuliers parce que ces virus ont accumulé une série de mutations très inhabituelles, jusqu'à 24 mutations pour le virus anglais. Et du coup, on ne comprend pas très bien comment ces mutations se sont produites. Il y a eu une publication dans le journal New England Journal of Medicine qui montre que chez une personne qui avait un déficit immunitaire, eh bien, ces 24 mutations se sont accumulées lors d'une infection chronique par la Covid parce que du fait du déficit immunitaire, cette personne n'arrivait pas à se débarrasser de son virus. Donc ça pourrait être des processus de ce type-là qui favorisent l'émergence des variants. Mais du coup, on se retrouve devant une situation tout à fait nouvelle pour nous parce que ces variants ont pour l'instant, de ce qu'on en sait, cette capacité de se transmettre plus facilement. 50% de transmission en plus.
Est-ce que ça veut dire que on peut tomber malade une nouvelle fois du Covid? Est-ce qu'on peut avoir le Covid souche historique et contracter à nouveau un Covid sud-africain? Par exemple, quand vous nous dites que c'est un virus qui finalement est assez différent.
Alors, il y avait déjà la possibilité de se réinfecter, mais c'était très rare et les données qu'on avait étaient de plus en plus rassurantes par rapport au fait qu'on ait pu être infecté en mars, par exemple, et qu'on le risque d'être réinfecté avec les virus qui circulent habituellement, c'était très rare, mais pas impossible. Là, maintenant, la question se pose avec ces variants, parce qu'ils sont effectivement vraiment différents. Et sur le variant anglais, on a des données qui jusqu'à présent sont un peu rassurantes. Sur le variant sud-africain, on est plus perplexe. Et c'est des choses qu'il va falloir suivre. Alors, finalement, je pense qu'il y a énormément d'enjeux simultanés qui sont posés par l'émergence de ces variants. D'abord, c'est une émergence globale, mondiale. Ce qui veut dire que la surveillance va devoir devenir mondiale. On ne peut plus se dire, regardez la tête rivée sur son pays, en train de se dire qu'est-ce qui se passe chez moi, et je sais comment contrôler le virus, et puis je vais avoir mes vaccins et je me débrouille. Maintenant, l'enjeu est mondial, il faut donc une surveillance mondiale des variants, et ça c'est organisé, l'OMS a fait la semaine dernière des nombreuses réunions là-dessus.
Elle dit que c'est insuffisant, qu'on ne le fait pas assez rapidement,
la Commission européenne, etc. Et en France, on va s'organiser pour, et je vous en dirai quelques mots. Mais il y a aussi maintenant quelque chose que je trouve intéressant, c'est que on réalise qu'on ne se débarrassera finalement de cette épidémie que si on a aussi une action mondiale pour s'en débarrasser. Vous avez tous vu quand même que les pays avaient des réflexes assez égoïstes par rapport à ces vaccins, en se disant « je vais m'assurer des doses de vaccins pour quelquefois deux fois ma population ». Je crois que le Canada, c'est 5 fois, si je me souviens bien. Mais là maintenant, il faut comprendre qu'on ne s'en sortira que si on joue la carte d'un problème qu'on appelle de santé globale et que finalement, il faut vraiment que les vaccins puissent atteindre l'ensemble de tous les pays du monde pour qu'on puisse se débarrasser du virus partout. Parce que si on laisse des lieux de circulation de ce virus, on risque de favoriser l'émergence de nouveaux variants contre lesquels les vaccins qu'on utilise ne seraient plus efficaces.
Mais ce sont des variants qui sont simplement, professeur, plus contagieux ou qui sont également plus dangereux?
Pour l'instant, ils ne sont que plus contagieux. Mais cette augmentation de la contagiosité de 50% est considérable. Et de fait, met à plat nos systèmes de contrôle des épidémies. Vous voyez que chez les Anglais, qui avaient quand même un niveau de contrôle important au mois de novembre et décembre, quand le variant a émergé, ils étaient à des niveaux de mesure à peu près similaires à celles que l'on a aujourd'hui en France. Et pourtant, ce variant a réussi à émerger avec un R qu'on connaît tous aujourd'hui de 1,5, alors que pour les autres virus, il était à 1. Donc, vous voyez, à 1, ils contrôlaient leur épidémie. Et malgré ce niveau de contrôle, ils se sont retrouvés avec une croissance de 50% par semaine de la circulation de ce variant anglais. Et ça, ce sont des choses auxquelles on va être confrontés et pour lesquelles il faut qu'on s'organise en France. Alors là-dessus,
concrètement, ça veut dire qu'il va se passer quoi? Justement, pour, vous avez dit, il y aura une surveillance en France des variants, pas que mondiale, mais en France aussi.
Alors en France, voilà, il y a deux choses. D'une part, on a repéré ce variant donc anglais et d'autres sur le territoire français. Là, je veux saluer la collaboration remarquable entre tous les virologues et biologistes médicaux en France, publics et privés. C'est absolument fantastique ce qu'ils ont réussi. Ils ont fait cette enquête flash dont vous avez entendu parler la semaine dernière, où sur une journée, ils ont repris les 20 000 personnes qui avaient été diagnostiquées positives et les ont repassées sur une autre PCR qui donne un signal défectueux quand on est infecté par un variant anglais. Et après, on séquence derrière, et les séquençages sont faits dans les centres nationaux de référence à l'Institut Pasteur à Paris et à Lyon, pour mettre en évidence ces fameux variants anglais. Et ce travail collaboratif, il est unique. Il n'y a aucun autre pays qui l'a fait en Europe. On est les seuls à pouvoir dire aujourd'hui, par exemple, que sur une journée, on avait 1,5% des souches qui circulaient sur le territoire national qui étaient dues aux variants anglais. Grâce à ça, dans les modèles mathématiques, et vous les avez dans la note du conseil scientifique, on voit que le variant anglais finalement va rester relativement minoritaire pendant encore jusqu'au mois de février. Et puis, selon un des scénarios le plus probable, c'est vraiment en mars qu'il va devenir majoritaire.
Quoi qu'on fasse.
J'insiste sur le fait que ce sont des scénarios, parce qu'il nous manque encore des données importantes, notamment sur l'augmentation de transmissibilité qui est associée aux variants. Ça pourrait être entre 40 et 70 %, et c'est très différent si c'est 40 ou 70 %. Mais ça nous donne une image globale, oui, mais... et de dire que pendant le mois de février, le problème va rester la circulation des virus classiques, et c'est au mois de mars que le variant anglais va prendre le dessus, voire peut-être d'autres variants, et c'est ça notre inquiétude, et que les effets sur le système de santé vont se faire sentir plutôt au printemps.
Mais vous avez donc une forme d'inquiétude vis-à-vis de ces variants, vous nous le dites. Ça veut dire quoi concrètement? Que ça retardera la sortie de crise?
Alors ça va certainement retarder la sortie de crise. Après, le délai, c'est vraiment ce qui dépend de ces fameux scénarios dont je vous parlais. L'autre chose qui est très importante, c'est qu'il faut se mettre en capacité de détecter les nouveaux variants. Et là encore, c'est l'effort des virologues et des biologistes médicaux ensemble pour créer des fameuses réactions PCR, vous savez, de détection du virus adaptée à tous les nouveaux variants qui vont être identifiés dans les semaines à venir, de façon à ce que cette enquête flash puisse être répétée régulièrement, si on y arrive une fois par semaine, sinon ce sera une fois tous les 15 jours, pour être capable d'avoir cette cartographie de la progression des variants sur le territoire français en temps réel. Et ça, c'est un enjeu majeur parce que c'est ça qui nous dira à quel moment un des variants commence vraiment à échapper.
Et on est en train de le faire, cette cartographie-là.
Alors, on est en train de le faire. C'est un effort majeur et très important. L'autre chose, c'est qu'il faut que les laboratoires de recherche se mettent, ce qu'on est en train de faire à l'Institut Pasteur, mais dans d'autres instituts de recherche en France, évidemment, pour être capable, dès qu'un variant est détecté, de le tester sur des modèles qu'on appelle ces modèles in vitro, par exemple de neutralisation du virus, et voir si ces variants, si des... sérums, par exemple, de personnes qui ont déjà été infectées par les virus classiques, ou si les sérums de personnes qui ont déjà été vaccinées sont capables de neutraliser in vitro ces variants. Et grâce à ces systèmes, on sera capable de vous dire et répondre à vos questions dès qu'un variant émerge. Voilà, on est face à un variant dont on peut se dire qu'on est protégé ou non par une infection antérieure classique ou par un vaccin.
Encore faut-il pouvoir les identifier, les repérer, Marion Moore.
On nous a souvent promis des tests salivaires qui seraient justement plus rapides, peut-être plus efficaces. Est-ce que désormais ça va arriver? Et est-ce que ce sera efficace aussi contre les variants, c'est-à-dire pour savoir si on a telle forme de Covid?
Alors aujourd'hui, pour la première fois, on a des résultats vraiment encourageants sur certains tests salivaires. Alors il faut savoir que ça dépend...
Mais ça veut dire que c'est pas prêt alors?
Si, c'est-à-dire que... Enfin, ce que j'entends par là, c'est que maintenant, on sait qu'il y a certains tests salivaires qui marchent bien. Alors après, il y aura le problème de leur distribution. Ça, jusqu'à présent, on n'avait pas réussi à en trouver. Ils marchent bien par des PCR, donc cette amplification du génome qui permet de faire le diagnostic. Donc il faudra effectivement les adapter par rapport aux variants si on veut être capable de détecter, parce que c'est la technique de PCR qui est la même que vous preniez un prélèvement d'azopharyngé ou de la salive. Mais pour la première fois, on a des bons résultats, et ça c'est très important parce que le test salivaire, évidemment, permettra des dépistages en population de façon beaucoup plus facile que les tests nasopharyngés. Je ne peux pas encore vous donner le calendrier.
Oui, c'est ça. Concrètement, quand est-ce qu'on peut les avoir
En tout cas, pour une fois, on a des résultats qui sont devenus très bons, alors que jusqu'à présent, c'était plutôt...
Mais une échéance, quand même, ou pas?
Décevant.
Ouais, mais non, mais dans les 6 mois,
c'est plutôt de l'échelle de semaines, quelques semaines. Je pense que là, à partir du moment où on a des tests qui marchent, ça sera une question de production et de distribution. Les tests antigéniques, eux, qui fonctionnent différemment, c'est pas de la PCR, mais c'est détection de la protéine.
Ce qu'on fait en pharmacie aujourd'hui.
Ce qu'on fait en pharmacie, pouvait détecter soit la protéine spike de surface, soit la protéine N. Maintenant qu'on voit que la protéine spike change beaucoup, ils sont déconseillés. Et heureusement, la plupart des tests antigéniques qu'on utilise détectent une autre protéine, la protéine N, et de fait semblent efficace et valide pour la détection des variants.
Alors avant d'en venir au couvre-feu, à son application et à son efficacité, oui ou non, une question quand même sur le traitement. Comment se fait-il, professeur Fontané, qu'on ait un vaccin, mais qu'on n'ait pas de traitement contre la Covid?
Et c'est effectivement un des sujets sur lesquels j'aurais pensé qu'on ait des traitements plutôt que des vaccins au premier trimestre 2021. Il y a ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que avec des traitements qui sont pas directement dirigés contre le virus lui-même, mais peut-être contre la réponse immunitaire, enfin la réaction inflammatoire suscitée par le virus, on a quand même eu des résultats où on a diminué de 50% à peu près la mortalité. Ça, ce sont les anticoagulants, les corticoïdes, l'oxygénothérapie à haut débit. Maintenant, sur les traitements antiviraux spécifiques qui pourraient diminuer la réplication virale, les résultats n'ont pas été à la hauteur de nos attentes. Et on commence à voir quelques pistes, mais qui ne sont pas absolument... Il n'y a rien qui est... qui va changer la donne, si vous voulez.
Donnez-nous,
on va avoir des améliorations.
Donnez-nous un horizon. Est-ce que dans un an, on peut espérer un traitement ?
Je ne peux pas vous dire dans un an, parce que tout peut se passer en un an. Mais ce que je peux vous dire, qu'à 3 mois, il n'y a pas pour l'instant de traitement qui change la donne. À 3 mois, il y aura des améliorations. Il va peut-être y avoir quelques traitements qui vont diminuer un peu le risque de passage en réanimation chez des patients hospitalisés, etc. L'autre enjeu, finalement, qui est difficile, c'est que ces traitements antiviraux, pour être efficaces, ils doivent être donnés très tôt. Chez des gens qui ont des formes bénignes de la maladie et qui sont extrêmement nombreux. Donc il faudrait que leur coût soit minime et il faudrait que leur toxicité soit minime parce que vous allez donner à plein de gens dont l'immense majorité ne va pas faire de forme grave. Hein. Rappelez-vous que les hospitalisations, c'est 3% des personnes infectées et 5% des personnes qui ont des signes cliniques. Donc, trouver un médicament qui puisse être pris très tôt quand vous êtes, vous avez une forme mineure, qui soit très peu toxique, parce que vous le donnez à des gens qui, pour l'immense majorité, vont guérir spontanément en quelques jours, et qui soit très efficace, c'est ça qui rend les choses compliquées.
Alors,
aujourd'hui.
On attendra un peu pour le traitement. Le couvre-feu a été mis en application depuis hier 18h. Adrien Gindre.
Généralise donc sur tout le territoire métropolitain, avancé de 2 heures par rapport à ce qui était en vigueur précédemment dans certains départements, en tout cas à l'ouest. Ça faisait partie des options que vous évoquiez dans votre rapport, mais vous parliez aussi de la possibilité d'avoir des restrictions de déplacement entre régions, la possibilité par exemple également d'envisager un confinement, peut-être sur le modèle du mois d'octobre. Est-ce qu'on ne prend pas du retard, un risque, en se contentant du simple couvre-feu à 18h? Est-ce qu'à lui seul, il peut être efficace?
Alors, dans notre rapport, effectivement, on proposait 4 modalités de contrôle de la circulation du virus sur le territoire. Le couvre-feu à 18h était la première, et puis il y en avait un peu plus forte avec des restrictions de déplacement, des confinements partiels, la quatrième étant un confinement type ce qu'on a eu au mois de mars. Nous, on était plutôt sur 2 et 3, c'est-à-dire un peu plus que ce qui a été proposé avec un couvre-feu à 18h. C'est des décisions extrêmement difficiles. Nous, on est évidemment sur un plan sanitaire. Bien sûr, on a une conscience de ce qui se passe au niveau de la lassitude des Français d'un côté, de l'enjeu économique majeur pour le pays dans son ensemble et puis pour certaines professions qui sont désespérées aujourd'hui parce que pour certains, c'est la perte d'investissement d'une vie. Je pense aux bars et aux restaurateurs qui vivent une situation extrêmement difficile. Et le gouvernement, il prend tout en compte et il a préféré se dire, on joue une dernière cartouche. Vous avez entendu Jean Castex, il dit on se revoit dans 15 jours, on en reparle. Qu'est-ce qu'il va falloir?
Mais est-ce que ça veut dire, d'un point de vue épidémiologique, est-ce que ça veut dire que de toute façon, dans 15 jours, on devra durcir? Ou est-ce que vous nous dites, il y a une possibilité que le couvre-feu à 18h seul suffise dans le contexte épidémique qu'on connaît et face à l'arrivée de nouveaux variants dont vous parliez?
Alors analysons la situation actuelle. On sort des fêtes de fin d'année, les choses se sont passées pas trop mal. On était inquiets, bien sûr, à cause des rassemblements de familles, etc., des déplacements, de tout ce qui accompagne les fêtes de fin d'année. Il y a une augmentation de la circulation du virus qui s'est faite avec un R qui est à 1,2 en population générale. Et c'est vrai que c'est les moins de 30 ans, chez les enfants, jusqu'à 30 ans, que l'on a vu une augmentation plus importante de la circulation du virus. Ça ne s'est pas encore traduit vraiment dans les hospitalisations parce que les plus jeunes ne font pas de formes graves. Donc, mais on est en train de sortir de cette situation un petit peu tendue des fêtes de fin d'année avec un bilan pas trop mauvais.
Alors, bilan pas trop mauvais, c'est déjà une bonne nouvelle. On y revient juste après la pause dans ce grand jury du professeur Fontané et on parlera honnêtement de l'hypothèse d'un troisième confinement ou pas. A tout de suite.
On roulait tranquille sur une petite route de campagne et là, tu sais pas ce qu'il me dit, non?
Je te fais une surprise, on va pas chez ta mère, j'ai réservé un hôtel de 5 étoiles.
Hein? Ne laissez pas les routes gâcher vos trajets. Découvrez nouvelle Citroën C4 avec ses suspensions à butée hydraulique progressive à partir de 219€ par mois. Portes ouvertes ce week-end. Citroën.
LLD 48 mois, 40 000 km, premier loyer de 2680€, offre réservée aux particuliers, garantie, entretien inclus jusqu'au 31 janvier, sous réserve d'acceptation crédit par, détails sur citroën.fr, équipement selon version.
Bonjour, c'est moi Ramsès, le chat blanc de Feu Vert. Ah, pas facile ce début d'année. Alors chez Feu Vert, pour bien démarrer 2021, on a une offre qui remonte le moral. Pour l'achat de 2 pneus Nexen été ou 4 saisons, le deuxième est à moins 50%. Oui, moins 50%. Commencez l'année du bon pneu et à moitié prix, c'est ça la patte de l'expert.
Offre soumise à la pause, voir sélection et conditions sur feuvert.fr.
Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes.
Allô patron, j'ai des nouvelles.
Des bonnes j'espère.
Eh ben non patron, désolé. Dès demain, les pommes de terre origine France en filet de 5 kilos sont à 1,99€. 1,99€.
1,99€ le filet de 5 kilos de pommes de terre.
Et des pommes de terre origine France, hein. Ça fait 40 centimes le kilo.
Eh ben voilà, on a tout compris.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Pommes de terre de consommation, catégorie 1, calibre 40-70, traitement anti-germinatif après récolte, diverses variétés selon arrivage, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Peugeot présente les jours exclusifs.
Ce week-end, pendant les portes ouvertes Peugeot, les séries spéciales style sont à l'honneur. Découvrez nos modèles sans compromis entre le design et les équipements de dernière génération. Et qui dit jour exclusif, dit offre exclusive sur toute notre gamme, comme par exemple la Citadine et élégante 108 style à partir de 79€ par mois. Alors n'attendez plus, rendez-vous chez Peugeot pour commencer l'année avec style.
LLD 49 mois, 40 000 km, premier loyer 1 410€ pour une 108 style 9 jusqu'au 28 février, si acceptation crédit par, détails sur Peugeot.fr.
RTL, il est midi et demi. Un point sur l'information avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre.
Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Le début de la campagne vaccinale pour les plus de 75 ans en France à partir de demain. Plus de 500 000 personnes ont déjà pris rendez-vous pour se faire vacciner dans les prochaines semaines. Le professeur Arnaud Fontanet est l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI, membre du conseil scientifique. Il estime qu'il faudra vacciner les plus jeunes pour reprendre une vie normale. On peut descendre en âge, je cite, à partir du moment où on confirmera qu'il n'y a pas d'effet indésirable grave. Une rêve partie en Isère, le soir même de la généralisation du couvre-feu à 18h, une centaine de teufeurs se sont rassemblés hier soir dans un hangar de Saint-Martin-d'Hères, proche de Grenoble. Des violences ont éclaté à l'arrivée des forces de l'ordre. 2 policiers blessés, 38 personnes verbalisées et 3 interpellations. Les autres ont réussi à s'enfuir. Un début de fronde en Bretagne. Le maire de Saint-Brieuc refuse de mettre en place le couvre-feu à 18h. Il estime que sa ville reste relativement épargnée par l'épidémie. Les services à la petite enfance de Saint-Brieuc resteront ouverts jusqu'à 18h45. La France se montre très réticente à l'idée d'un passeport vaccinal en Europe. Un document qui autoriserait à voyager en Europe, c'est très prématuré, estime le gouvernement. Ce sera un sujet différent quand l'accès au vaccin sera généralisé, selon le secrétaire d'État aux affaires européennes. 14 personnes interpellées pour des soupçons de pédopornographie. Un coup de filet lors du dernier confinement. Les gendarmes ont également saisi plus de 1000 contenus pédopornographiques circulant sur Internet. Un aller simple pour la Russie. Le principal opposant à Vladimir Poutine, Alexei Navalny, doit revenir à Moscou après plusieurs mois de convalescence en Allemagne. Victime d'un empoisonnement présumé, il pourrait être arrêté dès sa sortie de l'avion. Et puis le football, 6 matchs prévus cet après-midi, à commencer par Brest-Rennes. Ça va commencer dans une demi-heure. Ce soir, Lyon affronte Metz pour tenter de reprendre sa place de leader. Rencontre à suivre dans RTL Foot à partir de 20h. Dans un instant, la suite du Grand Jury.
À la fois DRH et standardiste, il sait tout faire en restant calme. Lui, c'est Alexis, Alexis Lance. Artisan acousticien et son nouveau Citroën e-Jumpy 100% électrique et son volume de chargement jusqu'à 6,6 mètres cubes.
Nouveau Citroën e-Jumpy, le savoir tout faire en 100% électrique. Élu utilitaire de l'année à partir de 259€ par mois, maintenance comprise. Citroën.
LLD 60 mois, 50 000 km, premier loyer de 2 455€ hors taxes, bonus écologique déduit, offre professionnelle jusqu'au 31 janvier, sous réserve d'acceptation crédit par, détails sur citroën.fr.
C'est une maison qui a toujours existé. Avec son odeur et sa décoration hors du temps, elle déborde de souvenirs d'enfance. Vous y venez toujours avec un mélange de plaisir et de nostalgie. Cette maison, c'est celle de vos parents. Et vous comprenez très bien pourquoi ils tiennent à y rester.
Petit-fils aide les grands-parents à rester chez eux partout en France. Petit-fils, l'aide à domicile sur mesure pour les personnes âgées. Petit au pluriel, -fils.com.
Mercedes-Benz. Entrez, prenez place, vous avez 4 heures.
Bonjour, installez-vous, je vous prie. Ouvrez la bouche. Et si vous preniez plutôt place à bord d'une Mercedes? Surtout en ce moment, pendant les Star Days. Là, installé confortablement, découvrez le meilleur de la technologie Mercedes-Benz et profitez de conditions exclusives sur de nombreux modèles en stock. Prenez place, les offres Star Days sont là. Rendez-vous chez votre distributeur avant le 30 janvier, conditions sur mercedes-benz.fr. Star Days, journée étoilée.
Jury
RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, l'épidémiologiste, membre du conseil scientifique, Arnaud Fontanet. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Avec à mes côtés Marion Mourgue du Figaro et Adrien Jeanne de TF1 LCI qui poursuit donc son questionnement sur le confinement.
Vous nous disiez à l'instant qu'il y avait quand même une bonne nouvelle, c'est l'effet très relatif des fêtes de fin d'année. En revanche, il y a toujours cette menace qu'on évoquait en première partie, l'épidémie toujours présente, les variants qui se développent. D'où cette question, est-ce que le couvre-feu seul à 18h peut réellement suffire? Peut-on se permettre d'attendre 15 jours avant de franchir une étape? Et d'une certaine manière, est-ce qu'on ne doit pas tous se préparer à l'idée que le troisième confinement sera inéluctable?
Voilà. Bon, je vais déjà pondérer ce que je vous ai dit, puisqu'on a dû interrompre l'explication. Ça n'a pas été donc aussi. Il n'y a pas eu de reprise d'épidémie aussi sévère que ce qu'on redoutait sur des fêtes de fin d'année, mais il y a quand même une petite augmentation qui n'est pas anodine. Ce qui est beaucoup plus embêtant, c'est qu'on part avec un niveau de taux d'occupation des lits qui est très élevé en cette fin de deuxième vague, où, puisque vous avez vu, il y a eu vraiment le pic en novembre. On est en plateau depuis, et ce plateau, on est déjà à 3000 lits de réanimation occupés, par exemple, vous voyez, sur les 5000 théoriquement disponibles. Donc,
ça n'a pas baissé comme après la première vague?
Pas du tout, et du coup, on n'a pas beaucoup de volant, de marge de manœuvre, si l'épidémie redémarrait, pour attendre, hein. C'est-à-dire que tout de suite, on devrait commencer à faire des déprogrammations de patients qui doivent avoir d'autres chirurgies pour d'autres pathologies que la Covid, etc. Donc voilà, on est quand même sous cette menace de devoir très vite agir. Donc ça, c'est quand même pour moi un souci d'inquiétude majeure. Et l'idée, c'est effectivement, avant que le variant commence à faire parler de lui-même, et selon les scénarios qu'on a aujourd'hui, c'est plutôt au mois de mars que sa poussée devrait se faire sentir. Eh bien, il faut vider justement ces lits d'hôpitaux et ces lits de réa avec les mesures qui sont disponibles. Alors là, comme je vous le disais, je pense que le gouvernement utilise ses dernières cartouches en se disant on va essayer de garder au maximum quand même la vie économique et sociale qui tourne pour préserver ce qui peut encore être préservé. Et puis si ça ne fonctionne pas, eh bien effectivement, on devra aller à des mesures supplémentaires qui iront vers un confinement qui soit partiel ou total. Mais on n'y est pas, en tout cas. On va observer. Ce qui est très important, c'est d'augmenter la surveillance. On l'a mentionné pour les variants, mais ça va être aussi pour les lieux où le virus peut encore circuler, comme les écoles, par exemple, puisqu'elles sont restées ouvertes. Donc là, vraiment faire une surveillance la plus étroite possible pour être capable de détecter le virus, d'avoir une idée de sa progression dans ces lieux où le virus peut circuler.
Et vous dites, si ça ne fonctionne pas, est-ce que vous envisagez un scénario où le couvre-feu à 18h seul pourrait suffire à faire face à la vague que vous annoncez pour mars?
Alors, ce qu'on a appris finalement sur la transmission de ce virus, c'est que les mesures barrières, elles marchent. Si vous respectez strictement vos mesures barrières, c'est-à-dire que vous portez un masque, que vous lavez les mains, que vous maintenez la distance physique, que vous aérez, que vous nettoyez les surfaces, finalement, vous pouvez contrôler le risque d'être infecté, pas de façon infaillible. Mais ces mesures, elles marchent. Les moments où les gens s'infectent, ce sont les moments où vous allez retirer vos masques dans des repas de famille, des repas avec des amis, des repas professionnels, si vous êtes dans une cantine d'une entreprise, ou à l'école, dans les cantines à nouveau. Donc, mais si dans les endroits où vous gardez votre masque, où vous respectez les gestes barrières, et on a toutes les raisons de penser que ça restera vrai avec les nouveaux variants, simplement le droit à l'erreur sera encore moins important avec les nouveaux variants parce qu'ils sont plus transmissibles. Si vous respectez les gestes barrières, on peut contrôler la circulation du virus. Donc on se donne une chance en se disant, avec un couvre-feu qui est à 18h, qui limite les interactions sociales, qui sont celles qui sont finalement avec les repas d'amis, famille, etc., ont beaucoup contribué en tout cas à la circulation du virus dans le dernier trimestre de 2020. Si on supprime cette partie et que l'on garde simplement les fonctions vitales, peut-être que ça passera. Donc c'est dernière chance, dernière cartouche qui
peut-être que ça passera, dernière cartouche, mais sur le couvre-feu.
Est-ce que ça change quelque chose d'avoir 2 heures de moins, ce 18-20 heures? Vous parliez des risques aussi, de l'inquiétude économique des gens, des professions qui ne peuvent pas travailler. Il y a aussi les risques psychiques. Est-ce que finalement, au vu des bénéfices-risques, ces 2 heures sont importantes de couvre-feu supplémentaire, alors que vous dites les gestes barrières, finalement, c'est aussi très utile? Et
les gestes barrières resteront et ont été
donc, finalement, est-ce qu'on peut préparer ça à 20 heures?
Très important. Alors, on a des données sur l'efficacité du couvre-feu qui nous viennent de la Guyane, où ils avaient un couvre-feu qui avait démarré à 23h, puis ils ont mis à 21h, puis à 17h, puis ils l'ont rajouté pendant le week-end. Et globalement, ça a diminué le R de 1,7 à 1,1. Donc, le couvre-feu marche. Après, c'était évidemment associé à d'autres mesures, donc dire qu'est-ce qui revient exactement au couvre-feu.
Et sur un territoire...
Et sur un territoire qui est différent d'une autre, en termes de habitudes de vie quotidienne et climat et des choses qui font que peut-être ça n'est pas directement transposable.
En métropole, professeur,
métropole.
Ceux qui nous écoutent se disent on a eu le couvre-feu en octobre et puis derrière on a eu le confinement parce que le couvre-feu était insuffisant.
L'analyse du couvre-feu d'octobre montre que le couvre-feu a eu une efficacité en octobre.
Oui, mais insuffisant puisqu'on a eu le confinement derrière.
En fait, on n'avait pas encore eu le temps au moment du confinement partiel d'analyser complètement les données du couvre-feu, parce que vous savez qu'il faut 15 jours pour pouvoir apprécier l'impact d'une mesure. Le couvre-feu d'octobre, il a été mis en place en deux fois, avec le 17 d'abord, puis le 24 octobre, donc 9 métropoles, puis 18 ensuite, finalement à peu près 67% je pense de la population française, et on est passé au 30 octobre au confinement partiel, donc il s'est passé une période de temps qui ne nous a pas permis d'évaluer le couvre-feu. Quand on regarde aujourd'hui les chiffres d'admission à l'hôpital début novembre, on se rend compte que les régions qui avaient fait un couvre-feu qui était à 21h pour octobre en premier ont eu les premières une baisse sur le nombre d'admissions à l'hôpital. Ceux qui ont fait le couvre-feu une semaine plus tard, eh bien, il a fallu une semaine de plus pour qu'on voit les nombres d'admissions à l'hôpital baisser. Puis les autres, ils sont restés en plateau. Mais ça laisse entendre que le couvre-feu à 21h a marché. Alors, de vous dire de combien il a marché, c'était aussi une période où il y avait des vacances scolaires, c'est un peu difficile, mais il a marché. Non, là, si vous voulez, je pense que pour le gouvernement, il était important de faire quelque chose. Une fois de plus, nous, on était prêts à dire de faire plus. Mmh. Ils ont pris une mesure qui, bon, dont on n'a pas effectivement aujourd'hui les moyens de vous dire si 20h ou 18h, ça fait une différence, mais qui quand même va vers plus de contraintes, et en espérant, parce que c'est peut-être la dernière chance, une fois de plus, de ne pas aller vers un confinement partiel ou total, et en se donnant les moyens de réévaluer la situation extrêmement rapidement.
C'est Emmanuel, je précise quand même, professeur Fontané, que votre rapport, votre note, votre dernière note, eh bien, a été publiée après les décisions annoncées par Jean Castex. Et là, on s'interroge quand même sur peut-être un manque de transparence. Pourquoi vos préconisations, on sait maintenant qu'elles sont plus drastiques que ce qui a été appliqué, eh bien, sont publiées après les décisions du gouvernement, parfois nuitamment?
Alors, l'objet de ces notes, si vous voulez, pour nous, c'est important qu'elles soient publiées. On a depuis le début, le Conseil scientifique, on a dit, on veut que toutes nos notes soient rendues publiques pour qu'il y ait quand même cet effort de transparence.
Mais après coup, ça vous dérange pas ?
En fait, l'important, c'est que nous puissions informer le gouvernement de nos préconisations, de nos propositions. Et c'est pas au moment où ils reçoivent la note qu'ils en sont informés. Il y a des discussions avec le gouvernement dans les jours et les semaines qui précèdent. Donc, on envoie notre note à un moment donné, mais il y a déjà eu beaucoup d'échanges avec eux pour qu'ils sachent, d'un point de vue scientifique, ce qu'on pense de la situation. Et là, ils ont mis 3 jours de plus pour la publier.
Mais ces échanges n'influencent pas votre décision? Est-ce que, par exemple, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que vous n'avez pas remonté le premier scénario sur le couvre-feu, alors que vous privilégiez, vous nous le dites aujourd'hui, le scénario 2 et 3 avec confinement?
En fait, nous, en tout cas, on a... Vous savez ce qu'on pensait, puisque c'est écrit dans notre note. Elle a été publiée 3 jours après que le gouvernement ait communiqué. Ce qui est important dans cette histoire, c'est qu'il y a un échange permanent avec le gouvernement sur ce que nous, scientifiques, on pense par rapport à l'évolution de l'épidémie, à des mesures qui pourraient ou non être efficaces. Et ça arrive. La note, elle est publiée 3 jours plus tard. Ce qui est important aussi, c'est qu'elle soit quand même publique, cette note, parce que les gens peuvent savoir la nature des échanges qu'on a pu avoir avec le gouvernement avant que le gouvernement ait pris ses décisions. Et ça, je trouve ça important.
Et 3/4 des Français dans les sondages se préparent à un troisième confinement. Est-ce qu'ils ont tort d'être aussi pessimistes?
Alors, vous l'avez vu, les scénarios, une fois de plus, regardez la note, les scénarios montrent qu'on devrait arriver à tenir jusqu'au mois de mars. Malheureusement, par rapport aux variants qui sont vraiment un changement dans la donne de cette épidémie, il faudrait je n'ai pas d'argument rationnel pour vous dire aujourd'hui qu'on ne va pas subir une progression de l'épidémie qui pourrait commencer en mars-avril. Et on sait, comme je vous le disais, qu'on a déjà un niveau très élevé d'occupation des lits à l'hôpital. Donc je suis là-dessus, une fois de plus, je pense que c'est bien d'essayer de tout tenter pour ne pas aller vers un confinement qui est une mesure toujours extrêmement lourde au niveau économique et social, en gardant quand même en tête que plus les mesures sont prises tôt, plus elles sont efficaces. Donc là, il y a un dilemme vraiment important. Et là, effectivement, il y avait des questions qui se posaient donc autour du couvre-feu. L'autre question importante, je pense que c'est les écoles.
On va y venir, mais quand même, vous nous dites à l'instant, c'est important, vous nous dites, le variant va être très présent au mois de mars. Si confinement il y a, il pourrait intervenir à ce moment-là.
Alors, l'important pour nous, si vous voulez, c'est qu'on a fait un seul point flash. On a pu dire qu'il y avait 1,5% de ce variant britannique sur le territoire français. On va répéter, je pense que dès mardi, on répète cet exercice. Ça nous donnera quand même un peu une idée de la dynamique. On ne voulait pas, sur une seule mesure, nous caler, nous, en tant que conseil scientifique, parce qu'on sait que cette mesure peut être imparfaite, et on aura plus d'arguments. Donc on se donne aussi un peu plus d'arguments, d'une part pour voir quelle est réellement la présence du variant anglais et peut-être d'autres variants dès que les outils seront au point sur le territoire français, et d'autre part pour voir quand même si on n'a pas un début d'efficacité de mesure. Par exemple, le couvre-feu qui a été mis à 18h dans certains départements de l'Est de la France, on aura son évaluation seulement dans les jours qui viennent. Donc voilà, on se donne un peu plus de temps, et puis après, effectivement, il faudra voir comment la situation évolue et quelles mesures à prendre.
Alors, une question sur l'école, bien sûr.
Vous y avez fait vous-même allusion à plusieurs reprises. Le gouvernement a décidé de les laisser ouvertes. On comprend bien l'intérêt sur le plan social, sociétal, de garder les écoles ouvertes. En revanche, est-ce que vous pouvez nous dire si on prend un risque sur le plan sanitaire en laissant ces écoles ouvertes? Et est-ce qu'il ne faudrait pas, d'ailleurs, sans recourir à une fermeture totale, être plus drastique dans la manière de gérer l'apparition de cas? Par exemple, quand un enfant est révélé positif, considérer que toute sa classe est cas contact pour mieux entraver la circulation du virus?
Alors, ce qui est important de comprendre sur l'école, parce qu'on a de plus en plus de données, et l'organisme européen, le CDC, a publié un rapport que je vous conseille de lire en décembre 2020, qui fait vraiment un état des lieux sur ce qu'on sait de la circulation du virus dans les écoles et les risques de transmission entre enfants et vis-à-vis du personnel enseignant. Globalement, l'école, finalement, la circulation du virus dans les écoles est un reflet de la transmission du virus dans la société, dans la communauté. Mais ce n'est pas un amplificateur de transmission. Et ça, c'est très important. Dans la grippe, ce sont les écoles qui font démarrer les épidémies. Mais avec ce nouveau coronavirus, la circulation du virus dans les écoles, elle suit la circulation du virus en communauté. Elle ne va pas l'amplifier. En revanche, évidemment, quand vous avez une circulation importante du virus en communauté, ben vous la retrouverez dans les écoles. Et puis quand il n'y en a pas, par exemple au mois de mai-juin, où on avait vraiment beaucoup baissé, ben il n'y avait pas de virus dans les écoles. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il n'y a pas eu d'épidémie majeure dans les écoles avec des enfants qui tombaient malades. On sait qu'heureusement, ils font des formes bénignes de la maladie. Et les enseignants, jusqu'à présent, ont réussi à se protéger. Dans toutes les études internationales qu'on a à notre disposition, chez les enseignants, on trouve des taux d'infection qui sont similaires à ceux d'une population du même âge ou du même sexe, voire inférieurs. Parce que les enseignants, finalement, arrivent avec les mesures barrières à se protéger. Et ça, c'est quand même aussi un signe que les mesures barrières, elles marchent. Parce que vous voyez, quand vous les appliquez, vous pouvez vous protéger. Alors, je mettrai un bémol, effectivement, pour des enseignants qui ont des comorbidités, qui, s'ils étaient infectés, feraient qu'ils feraient des formes graves. Ou là, peut-être, il faut quand même réfléchir à leur exposition. Mais en revanche, on voit qu'avec les mesures barrières, en tout cas, les enseignants, jusqu'à présent, ont réussi à se protéger. C'est une bonne chose. Il faut continuer à surveiller. Dans les écoles, finalement, le risque, c'est qu'aujourd'hui, il y a une circulation de virus. Elle n'est pas très importante. Il n'y a pas d'épidémie majeure, mais le virus circule. On le voit un petit peu maintenant dans les familles. Et finalement, le problème, c'est que les enfants vont revenir dans les familles. Et là, il n'y a plus de mesures barrières. Parce qu'on est au sein de la cellule familiale. Et si vous avez des personnes avec comorbidité dans la cellule familiale, elles sont à risque du fait du retour de leurs enfants de l'école quand ils sont
infectés. Mais ce n'est pas rien, ça.
Ça n'est pas rien.
Il n'y a pas de risque in situ dans l'école, mais une fois que les enfants sortent, là, ils peuvent être contagieux et potentiellement dangereux pour les autres.
Voilà. Donc, l'important, c'est... mais maintenant, vous savez aussi l'importance de l'école. Je ne suis pas la personne pour vous dire à quel point il est important que les écoles restent ouvertes, d'abord aussi pour les enfants. Les enfants, d'ailleurs, qui souffriraient le plus d'une fermeture des écoles, de ce que j'ai pu comprendre d'experts du sujet, c'était les enfants du primaire. Les enfants du secondaire ont finalement un peu plus de marge de manœuvre avec l'enseignement à distance.
Il reste d'autres sujets d'inquiétude, pardon de vous interrompre, mais sur les écoles, c'est quand même les cantines.
C'est un des
lieux, potentiellement, en tout cas ça inquiète les parents, de diffusion du virus. On a fermé les restaurants pour cette raison. Est-ce que finalement, il faudrait arriver à fermer les cantines?
Mais c'est exactement ça. Je pense que sur les écoles, il faut regarder où le virus se transmet quand les enfants s'affectent dans les écoles. Si les enfants sont masqués dans les écoles, si on aère un peu les classes, ça devrait bien se passer. Mais il y a évidemment le moment de la cantine, il y a le moment d'autres activités, je ne sais pas si vous allez faire du sport, le vestiaire, le machin, où les enfants vont se changer, enlever les masques et compagnie. Il y a le moment du transport scolaire. Dans les bus, il faut absolument que les enfants gardent leur masque quand ils viennent à l'école.
Oui, mais la cantine,
et puis il y a la sortie...
Par définition, on ne mange pas avec le masque.
Mais je suis d'accord avec vous. Et il y a la sortie de l'école aussi, où des enfants vont, en tout cas à niveau adolescent, parler en petits groupes, éventuellement commencer à fumer et tout le reste. Et c'est ces moments-là qu'il faut contrôler. Et la cantine, je suis parfaitement d'accord avec vous, mais je crois que dans les recommandations de Jean Castex, il était bien pointé aussi que la cantine était un lieu...
Mais donc vous pensez qu'il faut les fermer ?
Alors, il faut trouver en tout cas la façon de permettre aux enfants de s'alimenter. Et puis pour beaucoup de familles, c'est quelquefois le seul vrai repas de la journée pour les enfants. Mais dans les façons les plus sûres possibles. Alors c'est de l'espacement, à la fois dans le temps...
Les purificateurs d'air, il y a pas mal d'élus, de présidents de région qui prônent cette solution. Est-ce que ça peut être efficace pour justement permettre d'avoir la cantine et en même temps une circulation de l'air et...
Alors il y a deux choses. On peut aussi... Alors d'abord, ouvrez les fenêtres. Faisons les choses simples. Quand on peut, on ouvre les
fenêtres. Il y a des écoles où on ne peut pas, professeur Fontané. Ouais. C'est une réalité.
C'est possible aussi, mais dès qu'on peut, il faut le faire. Parce que ça, c'est des choses simples.
Les purificateurs d'air.
Qu'on peut faire de façon plus régulière. Deux, on peut mesurer le taux de CO2 dans l'air. Il y a des petites boîtes à 100 euros qui vous permettent de mesurer le taux de CO2. Et quand le taux de CO2 augmente, vous savez que vous pouvez avoir des concentrations. Ça reflète finalement la concentration des aérosols potentiellement infectés dans l'air. Donc ça vous dit, on a atteint ce critique. Trois, il y a effectivement des purificateurs d'air qui peuvent aussi être efficaces. Donc, je pense qu'il faut essayer de s'appuyer sur tout ce qui permettrait effectivement de limiter la circulation du virus dans les écoles. Mais voilà, il y a un moment où il y avait vraiment un choix extrêmement difficile à faire entre, d'un point de vue sanitaire, pour les raisons qu'on a évoquées, on ferme les écoles parce qu'effectivement, c'est un lieu de circulation du virus. Mais je rappelle, ça n'est pas un lieu d'amplification de circulation du virus comme ça peut être le cas pour la grippe. Et de l'autre côté, il y a tous les problèmes que ça pose pour les enfants. Alors, si vous fermez les écoles, et puis les familles.
Ouvrir les fenêtres, il fait froid en ce moment.
Professeur, vous nous avez dit tout à l'heure quelque chose de
très important. Mais je le fais, et je suis sûr, on peut ouvrir les fenêtres 5 minutes par heure.
Oui, mais ça pose la question de la météo.
au mois de mars, vous nous avez dit, on a un risque de voir la vague augmenter. Juste derrière, il y a le printemps qui va arriver. Est-ce qu'à l'inverse, l'arrivée des beaux jours peut nous faire espérer une baisse mécanique de l'épidémie? Quand on a déconfiné l'année dernière à partir du mois de mai, il y a eu moins de contraintes et on a vu que la reprise ne s'est pas faite tout de suite. Est-ce que la météo est un facteur qui peut nous aider face à cette épidémie de Covid?
Oui, je pense que maintenant, alors on avait des interrogations au début sur le rôle que pouvaient jouer les températures et l'humidité sur la circulation du virus. Maintenant, on sait des virus respiratoires qui circulent mieux en période hivernale, et les autres coronavirus humains saisonniers, ceux qui donnent des rhumes, des maux de gorge, circulent beaucoup mieux au mois de novembre, de décembre, etc. Donc, on l'a vu, vraisemblablement pendant l'été, d'une part les gens sont dehors, d'autre part peut-être la circulation du virus est moins facile sous certains climats plus printaniers, estivaux. Donc on a vu, et puis surtout, on l'a vu en septembre, je ne sais pas si vous vous souvenez, on était à un plateau où on se disait, on avait absorbé la rentrée professionnelle, universitaire et scolaire, et tout d'un coup, il y a eu une baisse des températures. Dernière semaine de septembre, sur l'ensemble du territoire français et sur l'Europe, avec des baisses de 15 à 25 degrés par endroit, et l'épidémie a flambé en France et en Europe. Et là, on s'est vraiment dit que le climat pouvait avoir un rôle. Donc on peut espérer effectivement qu'au printemps et à l'été, en revanche, le climat soit notre allié.
C'est l'heure de questions express.
Le grand jury, questions express.
Professeur Fontané, pour ou contre, bien pour ou contre, le retour à 100% de télétravail. 100% de télétravail. Aujourd'hui, on a le droit à une journée de travail en présentiel dans l'entreprise. Est-ce que vous êtes pour ou contre le retour à 100% de télétravail?
Alors, vous ne réussirez pas à me faire dire pour ou contre, parce que c'est une décision d'abord qui ne relève pas de moi.
Je suis d'accord, mais c'est
en
votre
revanche,
préconisation.
Je vais vous citer les résultats de l'étude que nous avons menée, comme corps, qui montre qu'il y a 40% de réduction du risque pour des gens en télétravail par rapport à des personnes qui font un travail, le même travail, mais au bureau.
Pour ou contre la réouverture des musées comme premier établissement culturel à rouvrir?
Alors, les musées, c'est une fois de plus, ce que cette étude, je vais en profiter pour la citer, comme corps a montré, c'est que finalement, les lieux où il y avait la transmission du virus étaient des lieux où on ne pouvait pas systématiquement respecter les gestes barrières, et notamment le port du masque. C'était donc les repas privés avec des amis, la famille, les bars, les restaurants, les salles de sport en intérieur. En revanche, les lieux où on pouvait garder son masque en permanence et respecter les gestes barrières, comme les lieux culturels, donc c'était musée, cinéma, théâtre, par exemple, comme les transports en commun, ça a été vraiment une surprise pour nous, ne montrait pas d'augmentation de risque.
On peut ouvrir les musées et les cinémas.
Alors, on est dans une période extrêmement difficile actuellement, vous l'avez compris, par rapport à la circulation du virus. Je vous aurais dit, s'il n'y avait pas eu les variants anglais et autres qui arrivaient, on aurait été effectivement à un moment parfait pour commencer à essayer de façon plus discriminative de réouvrir certains lieux et pas d'autres. Malheureusement, dans une situation d'incertitude dans laquelle on se trouve, c'est difficile. Mais vraiment, une fois de plus, j'insiste sur le fait que les gestes barrières nous protègent.
Y compris pour les salles de sport qui sont fermées depuis des mois.
Les salles de sport en intérieur, malheureusement, vous enlevez votre masque dans une salle de sport en intérieur. Et il y a eu beaucoup de clusters décrits, notamment dans les salles, alors plus de danse, fitness, etc. Et aussi dans l'étude qu'on a faite, comme quand malheureusement on voit une augmentation du risque dans ces salles. Donc dès que vous enlevez votre masque en intérieur, c'est très simple. Là, il y a un risque et je pense qu'il faut en tenir compte.
Pour ou contre, dernier pour ou contre, le passeport vaccinal, professeur Fontané. Ça c'est simple quand même.
Non,
les Français sont plutôt favorables à cela. Et dans le Parisien aujourd'hui, on voit bien que les Français sont d'accord pour dire que voilà, si on est vacciné, eh bien on pourra accéder à telle ou telle activité.
Donc, il y a deux choses. D'abord, il faudrait, pour que le passeport vaccinal ait une vraie, un vrai sens, que l'on sache si le vaccin protège contre la transmission. Tant qu'on ne sait pas si le vaccin protège contre la transmission, le passeport vaccinal en lui-même ne veut pas dire grand-chose. Puis deux, attendons quand même qu'on ait atteint un niveau de vaccination de la population pour se poser cette question qui est très importante, je suis d'accord, enfin, on se la pose, mais qui fait intervenir quand même beaucoup de considérations. C'est pas un oui, pourquoi pas, et non. Mais en tout cas, c'est des question qu'il faut se poser, et je trouve aussi que c'est là où les comités de citoyens peuvent nous aider. Alors je sais qu'ils ont été un petit peu décriés, mais c'est vraiment aussi un choix de société qu'on a de se dire, finalement, est-ce qu'on on valorise les personnes qui ont été vaccinées? Alors au début, on était en train de se dire, les vaccins, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas, est-ce qu'il faut valoriser ceux qui sont vaccinés? Maintenant, on se rend compte que beaucoup plus de gens veulent se faire vacciner, c'est une très bonne chose. Mais bon, je pense que c'est une question très complexe.
Question nette.
Le grand jury, question nette.
Tout est complexe et on est dans la nuance et vous avez raison. Bonjour Marie-Pierre Adam.
Bonjour à tous, bonjour à Arnaud Fontanet. Alors avec les variants du coronavirus que vous avez évoqués, il y a plusieurs internautes qui se demandent s'ils ne doivent pas désormais porter des masques FFP2 pour mieux se protéger. Qu'est-ce que vous leur répondez?
C'est une très bonne question. Ce que je vous disais tout à l'heure, on n'a pas d'éléments pour dire qu'avec les variants, la transmission, les modes de transmission ont changé. C'est restent les mêmes modes de transmission, simplement on a moins droit à l'erreur. Alors le FFP2 il couvre un petit peu mieux.
Le problème du FFP2, rappelons.
Voilà, le FFP2, donc le bec de canard, il est un peu plus difficile à porter. Pour l'instant, j'ai tendance à dire que continuons en tout cas à être très strict sur le port des masques dans les lieux clos notamment et quand vous êtes à proximité des personnes, mais dans les lieux clos de façon générale. Et peut-être qu'effectivement, le FFP2 apporterait une protection supplémentaire par rapport aux variants dont on sait que là, on a moins droit à l'erreur.
Là, vous avez un masque chirurgical, je le signale pour les auditeurs. Marie-Pierre Haddad.
Oui, alors on apprend dans un tweet anglais que le professeur Didier Raoult aurait publié ses propres résultats sur l'hydroxychloroquine et donc le coronavirus. Et ces résultats montreraient, donc d'après cette étude, son inefficacité. Est-ce que vous saluez ce rétropédalage du professeur Raoult?
Alors, je ne suis pas au courant, je n'ai pas suivi du tout cette question que vous soulevez. Je pense que ce qui est important dans la période que nous vivons, où la construction scientifique est compliquée, les études prennent du temps, sont difficiles, c'est d'être capable effectivement de se dire, voilà un moment quel est notre niveau de connaissance, et puis ce niveau de connaissance évolue, et il y a des moments où on a raison et c'est très bien, il y a des moments où on se trompe et il faut le dire. Et je pense que donc si le professeur Raoult pense aujourd'hui à l'examen de ses données, qu'il s'est trompé et qu'il le dit, c'est bien parce que ce qui est important, c'est que justement on s'adapte au niveau de connaissance et c'est quelque chose qui est... parce qu'il faut comprendre que la science se construit lentement et qu'il y a toujours des incertitudes. Mais il ne faut pas rester campé sur des positions quand il y a un moment où on se rend compte que finalement, c'est vrai, l'ensemble des études internationales montrent que l'hydroxychloroquine n'a pas d'effet.
Autre question, Marie-Pierre. Oui. Deux minutes, on en a encore beaucoup.
Vous avez justement parlé de votre étude sur les lieux de contamination. Quand vous l'avez publiée, vous avez été ciblée par les restaurateurs. Est-ce que vous avez reçu des menaces, par exemple, comme a pu en recevoir l'infectiologue Karine Lacombe?
Non, je n'ai pas reçu de menaces. Il y a eu un communiqué du syndicat des restaurateurs, je ne sais pas lequel, qui disait... qui mettait en doute les questions de, enfin plutôt la probité des résultats. Donc la seule chose que je peux répondre, c'est que non, cette étude a été faite de façon tout à fait très solide d'un point de vue méthodologique. C'est du déclaratif. Hein, donc les personnes nous ont dit avoir ou non fréquenté des restaurants et c'est pas nous qui sommes allés chercher la réponse et qui aurions pu la manipuler. Et je comprends parfaitement la détresse des restaurateurs et des personnes qui ont des bars aujourd'hui. Ce sont des gens qui ont investi, qui sont en train de perdre l'investissement d'une vie à cause d'une maladie. Et ils n'y peuvent rien parce que malheureusement, ce virus se transmet quand vous enlevez votre masque. Donc, ils en sont les premières victimes. J'ai beaucoup d'empathie pour eux. Et simplement, c'est vrai qu'il faut aussi qu'on s'appuie sur des connaissances scientifiques pour les mesures à prendre.
Dernière question très rapide avant une
Des internautes mettent en doute l'indépendance du Conseil scientifique. Ils estiment que vous vous adaptez à la politique d'Emmanuel Macron. Et donc, il y a Christophe qui veut savoir quelle rémunération vous percevez pour votre présence au Conseil scientifique.
Alors, 0 €.
Hein, ben ça vous fait, êtes bénévole.
Donc, la réponse est rapide. Et je peux vous le dire, nous travaillons en complète indépendance. Nous nous autosaisissons. C'est-à-dire qu'on ne répond pas à des demandes du gouvernement, mais on choisit nous-mêmes les sujets et on
Une question importante en 15 secondes.
Le retour à la vie normale, est-ce qu'on peut l'imaginer en 2021? Les Français ont besoin aussi d'avoir un peu d'espoir.
On peut l'imaginer sur le dernier trimestre de 2021. Et pour ça, il faut effectivement que les vaccins deviennent plus généralement disponibles. Mais c'est possible parce qu'il y a vraiment une production de vaccins qui augmente aujourd'hui et j'espère qu'au deuxième semestre, ce sera possible. Que ces vaccins restent efficaces contre les variants, je ne suis pas encore sûr que ce sera le cas. Donc que l'on vaccine globalement à l'échelle mondiale et qu'on ne se regarde pas notre nombril seulement. Mais il y a un espoir pour 2021. Si
pour fin 2021, en espérant que tout se passe bien d'ici là. Merci beaucoup, professeur Fontanet. Merci à tous de nous avoir suivis. Très belle semaine, à la semaine prochaine.